Vous écoutez, on lit pour vous.
Qu'est-ce que les joueurs de hockey sniffent sur le banc? Un texte de Léa Carrier, paru le 16 mai 2026 dans La Presse. Populaire sur les bancs des joueurs de la LNH, les sels d'ammoniac sont prisés des sportifs pour leur effet stimulant. La presse l'a testé pour vous. Qu'est-ce que le sel d'ammoniac? Si vous suivez nouvellement le hockey, vous avez peut-être été surpris de voir les joueurs renifler ce qui ressemble à de petites capsules blanches en début de match. Elles contiennent du sel d'ammoniac, aussi appelé « smelling salts », que l'on retrouve sous forme liquide ou solide. Inhalée, la substance améliorerait la performance sportive en stimulant la vigilance et en donnant un regain d'énergie. Mais son usage reste controversé et ses effets contestés. Quel est l'effet sur le corps, justement? Comment mieux le décrire que d'en faire l'essai nous-mêmes? Nous avons commandé en ligne une boîte de quelques dizaines de sachets de sel d'ammoniac au coût de 30 $. Pour libérer et consommer la substance, il suffit de craquer la capsule et de la porter sous son nez ou ses yeux. L'effet est saisissant. L'odeur, que l'on pourrait décrire comme chimique et agressive, déclenche une réaction physique immédiate. Les muscles du visage se tordent, les yeux larmoient, les narines brûlent. Ça a l'effet, pour le dire brutalement, d'une claque au visage. Et c'est censé améliorer la performance? Si certains l'assurent, aucune étude n'en a fait la preuve. Les sels d'ammoniac fonctionne avant tout comme un stimulant. C'est un produit qui va irriter les muqueuses du système respiratoire, à commencer par celle du nez jusqu'à celle des poumons, explique le docteur Pierre Frémont, médecin du sport et professeur à l'Université Laval. Le choc stimule le système nerveux qui produit et libère de l'adrénaline. Si certains joueurs peuvent se sentir momentanément plus réveillés et plus alertes, leurs capacités physiques, elles, n'en sont pas réellement améliorées. Selon notre expérience, l'effet est de si courte durée, quelques secondes à peine, qu'il est difficile d'en voir l'impact. Est-ce que c'est dangereux? Il n'y a pas de données qui le suggèrent, du moins pour l'instant. Il faut distinguer ne pas avoir de données et avoir des données qui confirment que c'est inoffensif. Ce qui n'est pas le cas présentement, souligne le docteur Frémont. À concentration élevée, les sels d'ammoniac peuvent même devenir mortels. Les quantités contenues dans les petits sachets vendus en ligne sont toutefois loin de la dose toxique, précise-t-il. En 2024, la Food and Drug Administration avait mis en garde les consommateurs contre l'utilisation de certains produits à base de sel d'ammoniac. Selon l'agence gouvernementale américaine, la substance pourrait masquer les signes de commotion cérébrale chez les sportifs, surtout dans les sports de contact comme le hockey et le football. En 2019, un jeune hockeyeur de Granby s'était infligé des brûlures à la gorge après avoir bu de l'ammoniac. Il avait dû être hospitalisé, forçant la santé publique de l'Estrie a lancé une mise en garde contre son utilisation. Pourquoi ce n'est pas considéré comme du dopage? Les sels d'ammoniac ne figurent pas sur la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage. De la même manière, il est toléré dans la plupart des ligues professionnelles sportives. Ce n'est pas considéré comme un produit dopant parce qu'il n'y a pas d'effet ergogénique pour améliorer la performance, explique le docteur Pierre Frémont. Son utilisation reste toutefois controversée. En 2025, Hockey Québec a annoncé qu'il interdirait aux joueurs mineurs après que le cas d'un entraîneur qui avait fait sentir du sel d'ammoniac à des joueurs de 10 ans eût fait réagir. La même année, la National Football League a voulu en réduire l'usage pendant les entraînements et les matchs. Elle a interdit aux équipes d'en fournir à leurs joueurs, qui peuvent toujours s'en procurer eux-mêmes. C'était « Qu'est-ce que les joueurs de hockey sniffent sur le banc? » Un texte de Léa Carrier, paru le 16 mai 2026 dans La Presse.
Se souvenir de Serge Bouchard, un texte de Nathalie Collard paru le 11 mai 2026 dans La Presse. Il y a 5 ans disparaissait Serge Bouchard, anthropologue, auteur de plusieurs ouvrages, l'homme à la voix chaude et rassurante a légué une œuvre riche réalisée en solo ou avec sa compagne Marie-Christine Lévesque. Sa mort a laissé un trou béant dans le monde des idées au Québec. Notre chroniqueuse en discute avec son éditeur chez Lux, Marc Fortier, qui a collaboré à l'ouvrage du Diesel dans les veines, la saga des camionneurs du Nord. Dans quel état d'esprit te trouves-tu à la veille du 5e anniversaire de la mort de Serge? Je ne suis pas un fan des anniversaires, mais ça m'émeut quand même, car j'ai toujours des pensées émues quand je pense à lui. On a travaillé ensemble pendant une douzaine d'années. C'est quelqu'un à qui je me suis beaucoup attaché, à qui je pense souvent pour toutes sortes de raisons. Je m'ennuie de lui. Souvent, je me demande comment il aurait parlé de tel sujet ou de tel chamaille de l'actualité. Qu'est-ce que ça dit, à ton avis, qu'on veuille se souvenir de lui 5 ans après sa mort? Serge avait une vraie relation avec le public. C'était vraiment important pour lui. L'amour ou l'affection que son statut de personnalité publique pouvait générer. C'était un littéraire, un conteur, un anthropologue. Ce n'était pas gagné d'avance qu'il pourrait devenir une personnalité publique avec ce profil-là. Sa relation avec les gens n'était pas mièvre. Il savait que la vie, c'était de la marde. Il l'a écrit. Il savait que les gens pouvaient être exécrables, qu'il y avait des méchants, de la violence... Mais par-dessus tout ça, il aimait la beauté du monde. Il aimait les personnes, peu importe lesquelles. Je pense qu'il nous manque pour ça, parce qu'on vit dans une époque assez dure qui se nourrit beaucoup de la colère et du ressentiment. Il y avait de la colère chez Serge, mais il n'y avait jamais de ressentiment. Serge Bouchard était une sorte d'éclaireur. Est-ce que tu penses que c'est aussi ce qui manque aux gens en ces temps troubles? C'était quelqu'un qui cherchait, qui était du côté de la réconciliation, mais pas la réconciliation forcée du genre « il faut s'aimer ». C'est une réconciliation qui accepte qu'il faille surmonter de vraies douleurs et de vraies souffrances. Il disait que tous les peuples finissent toujours par se raconter des histoires. L'important, c'est de choisir les bonnes. Je pense que ça manque aujourd'hui parce qu'on est dans une période qui fait toujours le pari de la division. Lui, il faisait le pari inverse, sans jamais faire semblant qu'il n'y avait pas de division. Peux-tu me parler des ponts qu'il a construits avec les écrivains autochtones, de la porte qui leur a ouverte? Je ne peux pas parler à la place des auteurs autochtones, Mais quand Serge est mort, Radio-Canada a fait une entrevue avec une poétesse inue de la communauté à laquelle Serge était attaché. L'animateur a dit que Serge était un allié, et la femme a répondu « Non, c'était un ami ». J'ai trouvé ça magnifique. Serge s'est attaché aux Inus. Il est devenu leur ami. Ce n'est pas juste un anthropologue qui est allé pendant 2 ans sur le terrain. Rétablir l'histoire et la place des Autochtones dans la société contemporaine a été un de ses combats qu'il a mené depuis les années 1970. C'était un élan du cœur et de la tête. Il a donné un nombre incalculable de conférences dans toutes les communautés autochtones pour raconter l'histoire des Autochtones. C'était un vrai engagement de terrain et de proximité. Le regard extérieur peut servir à s'admirer soi-même, et je pense que c'est un peu ça qu'il a fait. Il a fait la même chose avec les Québécois francophones. Il voulait magnifier la place des francophones dans l'histoire de l'Amérique. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça demeure pertinent aujourd'hui de lire Serge Bouchard? D'abord, les livres d'histoire sont vraiment intéressants. Celui qui se vend le plus dans les 3 remarquables oubliés, c'est « Elles ont fait l'Amérique ». Serge a écrit des textes fabuleux sur des femmes. Il y a un texte sur sa mère qui est un portrait ahurissant d'une femme qui était une badass, une femme libre dans sa tête. Tous les textes historiques conservent leur pertinence parce qu'il y a une façon de raconter l'histoire qui est à la fois documentée et très accessible. « Le peuple rieur » est un livre magnifique sur l'histoire des Inus et sur sa relation avec eux. Est-ce qu'il y a un texte pour toi qui est plus important que les autres? Le texte « Un café avec Marie ». Je trouve que c'est d'une beauté. Il y a aussi le livre « Récit de Mathieu Mestocochaud, chasseur Inu ». Serge avait enregistré les récits de voyage de chasse du père de son ami Georges dans les années 1970. C'est un document incroyable parce qu'on n'a pas accès à ça. Pour la communauté de Mingan, c'est le livre le plus important de Serge parce que ça raconte des choses qui seraient sinon perdues. Quel livre conseillerais-tu à un jeune de 20 ans qui veut le découvrir? Je miserais sur les remarquables oubliés. Ce sont des histoires fascinantes de femmes et d'hommes qui s'intéressent à l'histoire du Québec et des Autochtones. Ça devrait être une lecture obligatoire. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de Serge Bouchard? Je pense que les gens n'ont pas compris à quel point c'est un grand écrivain. François Ricard disait de lui que c'était un des plus grands prosateurs de l'histoire du Québec. Serge était capable de prendre une séquence banale et d'en faire quelque chose de beau et de signifiant. Dans son livre « Le moineau domestique », une réflexion sur un oiseau quelconque devient une réflexion sur la vie en général. Ses textes parlent de la vie, de la mort, de la poésie, de la beauté du monde et de la dureté de l'existence. Il y a quelque chose qui est impérissable, un peu comme des textes philosophiques. C'est probablement la dimension de Serge qui est mal comprise. Écrivain. Ça sonne parfois un peu élitiste, alors que lui appartenait à tout le monde. Rien ne le faisait plus triper que le nombre de camionneurs qui lui écrivaient. C'est peut-être plus dur de le voir comme un écrivain parce qu'il était si populaire. C'était « Ce souvenir de Serge Bouchard », un texte de Nathalie Collard, paru le 11 mai 2026 dans la presse.
Et si vous perdiez votre toit? Un texte de Pascal Renaud-Hébert, paru le 13 mai 2026 dans la presse. Radio-Canada vient d'annoncer la diffusion prochaine de « Sur le fil », une nouvelle série signée Pascal Renaud-Hébert en lien avec la crise de l'itinérance qui s'aggrave partout au Québec. Pour l'écriture de la série, la scénariste a rencontré des gens qui n'imaginaient jamais se retrouver à la rue. Elle revient sur ses rencontres marquantes. L'autre jour, je discutais avec un ami. Pas vraiment un ami, une connaissance, disons. La connaissance m'a demandé sur quoi je travaillais en ce moment. Je lui ai répondu simplement « Sur une série qui s'appelle « Sur le fil »
et qui se déroule dans un centre venant en aide aux personnes en situation d'itinérance. La connaissance arrive. Quand j'ai demandé ce qui était drôle, je me suis fait répondre que les gens aujourd'hui compliquent les affaires pour rien. Je savais ce qui s'en venait, mais j'ai quand même posé la question. Comme quoi? S'en est suivi une longue tirade sur les mots qu'on choisit, sur ce qu'on peut dire ou non maintenant. Un discours qu'on entend souvent, mais qui m'a quand même fait réfléchir à l'importance des mots. On ne dit pas une personne en situation d'itinérance pour être compliquée. On le dit parce qu'une personne ne se résume pas à sa situation. Avant la rue, il y a eu une enfance, des amours, des rêves, des blessures. Et surtout, il y a encore quelqu'un. Parce qu'avant d'être une personne en situation d'itinérance, quelqu'un reste une personne, point. Et parfois, les mots qu'on choisit sont une façon de ne pas l'oublier. Robert, lui, a de très bons mots pour parler de sa situation. Nous avons accepté d'accorder l'anonymat à Robert, prénom fictif, pour ne pas lui nuire dans ses démarches de réintégration. J'ai l'impression d'essayer de monter une échelle depuis quelques mois, d'avancer sur le tremplin, mais quand je regarde en bas, il n'y a pas d'eau dans la piscine. Je suis censée faire quoi? Dans la rue depuis quelques mois, l'homme, dans la fin de la cinquantaine, ne pensait jamais se retrouver là. Robert se sent vulnérable, pour reprendre ses mots, à cause de son âge principalement. J'ai eu une vie normale, des amis, des bons jobs. Après avoir été arrêté un an à cause d'un accident de travail, j'ai tout liquidé, puis je suis parti en voyage. Quand je suis revenu, j'étais plus capable de me trouver un logement. J'ai habité chez des amis, j'ai craché sur des sofas, mais à un moment donné, on vient mal de demander ça au monde autour de nous. Devant l'entrepôt où il a laissé toutes ses affaires l'automne dernier, Robert s'est retrouvé devant rien. À ce moment-là, j'étais pas dans le déni. Je le savais que j'étais dans la rue. C'est peut-être cliché de dire que ça peut arriver à tout le monde, mais pour Robert, c'est vrai. On veut juste être traité avec respect. Robert vit aujourd'hui dans une ressource pour personnes en situation d'itinérance. Récemment, il s'est inscrit à une formation professionnelle par l'entremise d'Emploi Québec pour tenter de se réorienter. À cause de son accident de travail, il ne peut plus exercer son métier. Le fonctionnement semblait simple. Pendant sa formation, Robert devait recevoir une aide financière supplémentaire. Une rare bonne nouvelle, une possibilité concrète de s'en sortir. Puis, après plusieurs semaines, on lui annonce qu'il y a eu une erreur. Comme il touche des prestations d'aide sociale, il n'avait finalement pas droit à cet argent. Résultat, Robert apprend qu'il doit maintenant quelques milliers de dollars au gouvernement. Je résume. Un homme se retrouve dans la rue. On l'encourage à suivre une formation pour se sortir de cette situation, puis on lui annonce qu'en essayant de s'en sortir, il s'est endetté davantage. Tu parles d'une balle courbe. On nous demande de suivre un processus pour se sortir de l'aide sociale par un programme d'Emploi Québec, mais on nous attend avec un « non » par défaut à la ligne d'arrivée. Robert est découragé. Je le comprends. Je serai autant que lui. Malgré tout, il fait des blagues durant notre entretien. Il me parle de ses opinions politiques, de sa perception de notre système, de ses rêves, de son écriture qui lui sert d'exutoire et qui lui permet de s'exprimer. Robert est un homme intelligent qui s'exprime bien. Quand je lui demande s'il croit que la société considère les personnes en situation d'itinérance comme des citoyens à part entière, il me répond que non. On met beaucoup de gants blancs, mais on n'est pas chaussé. Tout le communautaire est dans l'angle mort. Les organismes se font abandonner, puis nous aussi. Quand il parle du système, Robert parle de la roue. Et qu'a-t-il à dire sur la roue? Elle est pognée dans l'époxy bien raide. Il lance ça et éclate de rire. Faut continuer à rire, c'est important. L'histoire de Robert est celle de tellement d'autres personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de l'écriture de « Sur le fil ». Des gens comme vous et moi qui, à cause d'une bad luck, d'un bagage complexe, d'un événement traumatique, d'une rénoviction, se retrouvent à la rue. J'ai rencontré une dame qui, à 73 ans, s'est fait évincer de son logement qu'elle payait assidûment depuis 15 ans et qui se trouve aujourd'hui dans un organisme communautaire pour personnes en situation d'itinérance. On dira qu'elle aurait pu aller au TAL, se battre pour ses droits. Mais pour certaines personnes, c'est une montagne trop haute à gravir. Ça prend des outils pour se battre. Ça prend un réseau pour se battre. J'ai aussi rencontré un homme de 80 ans qui a perdu son logement et qui, en attendant d'avoir une place dans une RPA, se retrouve dans le même organisme. Je répète, en attendant d'avoir une place dans une RPA. Cet homme est présentement en situation d'itinérance à 80 ans. Ça me choque, ça me bouleverse, mais ça me confirme surtout une chose. Oui, ça peut arriver à tout le monde, à vous, à moi. Les intervenants et intervenantes que j'ai rencontrés me confirment la même chose. Des gens qu'on n'aurait jamais vus dans nos organismes avant, on en voit maintenant tous les jours. La clientèle augmente sans arrêt. C'est triste de constater que les choses empirent et qu'on n'est quand même jamais certain de voir notre financement renouvelé. Je reviens donc à ma connaissance, celle qui trouvait que l'on compliquait les choses pour rien. Et après avoir rencontré Robert, cette femme de 73 ans, cet homme de 80 ans et tellement d'autres dans leur situation, je me dis que les mots sont probablement ce qu'il y a de moins compliqué dans ces histoires-là. C'était « Et si vous perdiez votre toit? » Un texte de Pascal Renaud-Hébert paru le 13 mai 2026 dans La Presse.
On va écrire une lettre, un texte de Raphaël Malou paru le 8 mai 2026 dans La Presse. Nous sommes en 1984, j'ai 5 ans, des étoiles plein les yeux et une seule idée en tête, devenir astronaute comme Marc Garneau. Pour réaliser mon rêve de le rencontrer, ma mère a la brillante idée de lui envoyer une lettre. La réponse ne se fait pas attendre. S'il n'est malheureusement pas possible de le voir en personne, on m'offre plutôt une liste de suggestions de livres pour nourrir ma passion. Il n'en fallait pas plus. Dès le lendemain, on filait acheter un vrai livre sur l'espace, un livre pour les grands. En 1985, j'ai 6 ans et de grandes ambitions. Je dis à ma mère que j'aimerais un jour devenir premier ministre, comme Brian Mulroney. Sa réponse, « D'accord, on va lui écrire une lettre pour voir si on peut le rencontrer. » Quelques mois plus tard, nous recevions une invitation pour visiter le Parlement. Son agenda était trop rempli pour nous accorder une rencontre en personne, mais pour l'enfant que j'étais, le simple fait de recevoir une réponse tenait du miracle. À 11 ans, j'ai finalement visité le Parlement avec mon école primaire et ma mère était avec ma classe pour aider les professeurs. C'était impressionnant. Depuis mon tout jeune âge, je regarde tous les matchs du Canadien de Montréal et, à 13 ans, je lui confie que j'aimerais voir comment se fabrique la soirée du hockey à Radio-Canada. Sa réaction est la même. On va écrire une lettre. Quelques mois plus tard, l'enveloppe tant espérée arrive. Une invitation pour assister aux coulisses de l'émission mythique au Forum de Montréal. Nous sommes partis de notre village de Verchères un samedi soir. Ma mère m'a conduit au Forum de Montréal et m'a laissé au bon soin de l'équipe de production pendant qu'elle allait prendre un café rue Sainte-Catherine. J'ai passé la majeure partie de la soirée dans le camion de production, là où le réalisateur orchestre tout. Je l'observais choisir ses plans. La caméra 4, la caméra 6 et le but! J'étais fasciné. Tout est possible. Nous n'étions pas riches, bref, pas dans la classe moyenne. Pourtant, le mot d'ordre de ma mère demeurait invariable. Tout est possible. C'est cette conviction qui m'a poussé à aller étudier en télévision à Ottawa. Ma sœur aînée a fait des études à Vancouver. On débordait de possibilités. Si je suis devenu un artiste qui est passionné depuis une vingtaine d'années, c'est à elle que je le dois, à elle et au pouvoir d'une simple lettre. Elle dit souvent « Le pire qui puisse arriver, c'est un refus. On n'a rien à perdre. Go !» Aujourd'hui, je réalise toutes sortes d'émissions de télévision, passant de « Dans les médias » au gala à « Bonsoir, bonsoir ». Il y a quelques années, on m'a proposé de réaliser « Les enfants de la télé ». J'ai d'abord hésité, puis j'ai accepté, en grande partie parce que je savais que ma mère aimait regarder cette émission. Aujourd'hui, en régie, il y a souvent des moments très touchants sur le plateau. Je choisis mes caméras. Prends la caméra 6, la 3. Et parfois, j'arrête de choisir les caméras, un silence s'installe. Devant mes écrans, je suis ému par l'émission. Je me retiens pour ne pas pleurer, personne ne s'en aperçoit, mais je sais qu'à ce moment précis, dans son salon, ma mère sort sa boîte de mouchoirs, tout aussi touchée que moi. Ma mère, Diane, en pleine forme, a aujourd'hui 73 ans. Mère de famille monoparentale de 3 enfants, elle a défoncé des plafonds pour offrir tout l'amour à ses enfants et un horizon infini de possibilités. C'est le plus beau des legs. Merci, maman. Avec toi, j'ai appris que tout est possible. C'était ma lettre pour ma maman. C'était « On va écrire une lettre », un texte de Raphaël Malot, paru le 8 mai 2026 dans la presse.